Bonjour à tous, aujourd'hui on est au festival de Viva Cinéma au Luxe à Valence. Donc moi je m'appelle Jules, je fais partie de l'Assemblée des Jeunes où on organise des activités en lien avec le cinéma et le milieu du cinéma. Et avec Anakin, on est aujourd'hui en présence de Laurent Delmas, donc un critique de cinéma bien connu notamment pour ses chroniques sur France Inter et qui nous a rejoint pour l'occasion. Alors c'est assez cocasse d'interviewer un journaliste. Tout d'abord bonjour Laurent Delmas.
Bonjour.
J'aimerais vous demander si vous restez ici pour regarder des films ou si vous aviez déjà découvert le programme et s'il y avait des films que vous découvriez pour cette occasion.
Moi, on m'a demandé d'être là en me parlant d'une programmation dédiée à un cinéaste que j'aime bien, qui est Jacques Tourneur, et donc en me demandant si je voulais bien présenter trois de ses films, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Après j'ai vu qu'il y avait aussi une programmation sur un autre très grand cinéaste, Youssef Chahine, cinéaste indien, et puis je vous avoue que sinon moi je n'ai hélas pas le temps de rester à Valence du 20 au 27 janvier pour voir tous les films présentés, parce que mon métier c'est effectivement de voir plutôt dans un premier temps en tout cas des nouveaux films. Les 10 à 15 films qui sortent chaque semaine en France. Et voilà, donc on n'a jamais assez de temps pour rester comme on le voudrait dans les festivals, alors que je considère, donc je m'y emploie quand même, je considère évidemment que voir et revoir, non pas des vieux films, Bertrand Tavernier détestait qu'on parle des vieux films, hein. Il disait des films du passé, mais pas qui ne sont pas vieux. On voit bien avec les films de Jacques Tourneur que, au contraire, ce sont des films d'une incroyable jeunesse et qui continuent à nous parler et qui continueront à parler aux générations suivantes. Voilà, donc voir des films, on va dire, du patrimoine, pour trouver une bonne formule, c'est pour moi essentiel, parce que le cinéma, c'est une histoire, c'est une archéologie. Il y a des fondations, il y a des murs premiers, puis d'autres, puis des fenêtres, etc. Bon, c'est une maison qui restera toujours en construction. Mais en tout cas, c'est extrêmement important, voire essentiel pour moi, de voir très très régulièrement des films muets, en noir et blanc. Enfin bref, les films des premières périodes du cinématographe.
Et d'ailleurs, donc par rapport à ces différents genres de cinéma, là, notamment c'est un festival sur films et des films restaurés en tout cas, je me demandais, dans vos chroniques, vous avez une approche assez positive par rapport aux films. Vous avez l'air d'avoir une approche quand même assez améliorative par rapport aux films, et en même temps critique. Et je me demandais si cette sélection de films, si ce choix était dû au fait que déjà c'est plus agréable de parler de films qu'on apprécie. Ensuite, si c'était pour donner plus de visibilité donc à ces films que vous jugez donc mériter d'une certaine visibilité, ou si il y avait des genres de cinéma que vous n'aimiez pas et pour lesquels vous vous forciez à regarder des films pour en parler ensuite dans vos chroniques.
Vous m'étonnez un peu parce que j'ai la réputation d'avoir un peu à contrario la dent dure et de parler, enfin de donner mon avis et que ces avis soient parfois négatifs. Mais j'y tiens. Je pense que, comme disait Beaumarchais, il n'y a pas d'éloge flatteur sans liberté blâmée. Ça, c'est peut-être ce qui doit nous servir de viatique à nous, les critiques. Et quand je dis critique, c'est pas seulement de cinéma. Critique littéraire, musicaux, gastronomique, pourquoi pas. Je pense qu'on peut pas passer son temps à dire du bien dans la mesure où il n'y a pas que des choses bien qui nous sont montrées, proposées, etc. Dans la mesure où il s'agit, soyons clairs, d'un regard subjectif. Moi, je ne revendique que ma subjectivité. Il se trouve que j'ai mon goût et que j'estime que j'ai bon goût. Mais à partir de là, bien évidemment, vous avez le vôtre et le vôtre est bon. Et l'intérêt, ce sera éventuellement de croiser nos avis convergents ou divergents sur un film. Mais pour en venir à votre question, non, je crois vraiment que je ne conçois pas la critique de cinéma sans avoir la liberté de dire du mal d'un film. parce que souvent, en plus, moi, ce qui me conduit à émettre des critiques négatives, c'est l'idée que le film me maltraite. Que ce que je vois je peux le considérer comme une maltraitance de mon statut de spectateur. On se comporte mal parce qu'on ne me respecte pas, parce qu'on me propose des choses vulgaires, faciles, facilement réalisées, facilement dialoguées, facilement scénarisées. Là, ça peut m'énerver. Et dans ces cas-là, je pense que l'énervement est une réaction. Il faut dépasser l'énervement, il faut argumenter. Et il faut le dire, parce que c'est notre crédibilité qui est en jeu. On ne peut pas tout aimer, ça n'existe pas. Enfin, les gens qui aiment tout, moi je trouve ça très suspect. Bien évidemment que, vu l'immense panel qu'on a en face de nous, l'immense diversité des films que l'on voit, mécaniquement, je dirais, on ne peut pas tout aimer. Et tout n'est pas d'un même niveau. Alors après, vous me disiez sur les genres, oui, il y a certainement des genres avec lesquels j'ai moins de... pour lesquels j'ai moins d'appétit. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir les films. Ça, c'est pas un... Je veux dire, a priori, il faut que je voie tous les films.
Voilà. Sur ce genre de critique, vous avez l'air d'avoir quand même une critique assez constructive. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'émission Le Masque et la Plume, où les films sont fortement critiqués sous beaucoup d'aspects. Là, on a une sélection de films quand même qui a un but constructif par rapport à vos critiques, j'ai l'impression du moins.
Mais oui, je comprends ce que vous... Enfin, oui, par exemple, Le Masque et la Plume, mais ça, je comprends, c'est une réputation. Mais il y a quatre critiques. Qui parlent des films. Hein, ils sont sur le plan. Quatre confrères et consoeurs que je connais très très bien. C'est extrêmement rare. Mais vraiment, hein, moi je j'écoute Le Masque et la Plume depuis que j'ai votre âge. Et encore pire. Il y a très très peu de cas où les quatre sont d'accord pour dire du bien ou pour dire du mal. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des jeux à 1 contre 3, 2 contre 2, 3 contre 4, mais il y a rarement une unanimité critique. C'est la preuve de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que c'est la preuve que tout va bien. C'est la preuve que ce sont des individualités, des subjectivités qui s'expriment par rapport à quoi ? À une proposition. Chaque film est une proposition. Et il faut voir un film comme ça. C'est une proposition qu'un artiste, mais comme un tableau, comme une chanson, une symphonie, un plat, tout ce qu'on a. Quelqu'un vous propose quelque chose. Un artiste vous propose, on va dire pour aller vite, sa vision du monde, sa vision d'un monde. Le propre du critique, mais aussi du spectateur, c'est de s'emparer, enfin en tout cas de regarder, d'écouter, de lire cette proposition et ensuite de s'en emparer ou pas, de l'apprécier ou pas, d'avoir des réserves nombreuses ou infimes, d'être dans l'enthousiasme ou la détestation. Mais c'est vraiment, en tout cas moi je vis mon métier et la pratique culturelle que j'ai avec les objets d'art dans ce rapport-là, qui est un rapport de proposition et ensuite de réaction à cette proposition. Eh bien, il y a des propositions qui ne passent pas, et d'autres qui passent, et d'autres qui sont enthousiasmantes, etc. C'est, là aussi, la gamme est très très large. Donc, oui, je dis du bien, mais j'adore dire du bien, mais j'adore aussi dire du mal. Hein. Je sais pas, j'ai aucun là-dessus. J'ai pas le sentiment d'avoir une, en tout cas, un dosage, on va dire, par rapport à ça. C'est-à-dire où je dirais, bon, alors, allez, je m'autorise à dire du mal de deux films, mais je vais dire du bien de cinq autres pour contrebalancer. Non. Très franchement, les échos que je peux recevoir régulièrement. J'ai un ami qui me dit, voilà, mais tu as dit du bien de trois films, c'est incroyable cette semaine. Donc,
Alors, désormais, je vais vous poser une question un peu en rapport avec l'actualité. Parce que j'ai entendu, j'ai plutôt lu dans l'interview, les critiques sont-ils ce que vous croyez pour le syndicat de la critique? Vous avez dit, je cite, « Je redoute à contrario les temps promis où chacun sera artiste ». Et personnellement, on est étudiant en images animées et ça touche, cette question touche un peu tous les métiers de la création, notamment du cinéma. Et dans les temps où l'IA semble pouvoir donner accès à des ressources essentielles, est-ce que c'est en quelque sorte de ça que vous vouliez parler en abordant cette thématique? Et sinon, qu'est-ce que vous entendiez par là? Parce que c'est quand même un sujet vachement intéressant.
Oui, oui, bien sûr. Moi, ma problématique, en quelque sorte, c'est que je vois qu'il y a depuis quelques années, mais c'est en dehors de l'IA sur lequel on reviendra, la notion, ou peut-être l'envie, ou le projet, que tout le monde soit artiste. Or, moi, ça me pose un problème. Non pas parce que je crains que ça ne fasse que des mauvais artistes, si tout le monde est artiste, ça peut être quand même une crainte, mais je crains surtout la disparition du spectateur. Parce que si tout le monde monte sur scène, et s'il n'y a plus personne dans les fauteuils, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'art. L'art, c'est ce que je disais, c'est une proposition que quelqu'un nous fait, mais la proposition a plus d'une personne, a priori. Si tout le monde monte sur scène, si tout le monde devient artiste, alors il n'y a plus de spectateurs. Et moi, ça me pose un problème. Parce que je pense que la position du spectateur, elle est essentielle à l'art, que l'art se bâtit dans un dialogue et non pas juste dans une sorte d'activité qui serait complètement individuelle. Bon, pour le cinéma, c'est pas le cas parce que c'est un art tellement collectif, mais disons le peintre, le romancier, le musicien, il est dans son couloir de nage et puis voilà, il crée. Mais si personne ne le regarde, si personne ne l'écoute, si personne ne prend intérêt à ce qu'il fait, parce que tout le monde à côté est dans son couloir de nage, en train de faire sa petite production, pardon, méprisant, en train de faire sa production artistique, parce qu'on va dans le mur. On va évidemment dans le mur. Dans le mur d'une conception de l'art qui serait juste... c'est du hobby, quoi. C'est de l'amateurisme distingué, etc. Mais ça n'est pas ça. Donc le tous artistes, moi, me pose question. Alors, effectivement, c'est d'autant plus... Vous pouvez d'autant plus être circonspect par rapport à ça. C'est que, vous avez raison, c'est que sont en train de naître des outils qui font que... Alors vraiment, créer une image animée, ça devient, semble-t-il, d'une facilité déconcertante. Alors que quand on voit l'animation image par image, on voit bien que c'est... Bon, il y a du travail. Bon, s'il y a, c'est la destruction de la création par un travail mécanisé, automatisé, quand bien même est-il... à l'origine, malgré tout, quand même, bâti par une intelligence qui n'a rien d'artificiel, mais qui est humaine, si ça pose cette question-là, oui, c'est un vrai souci. Parce que, non seulement il faut des spectateurs, mais il faut aussi des vrais artistes, c'est-à-dire des gens qui aient quelque chose à faire passer. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que tout puisse précisément passer par une intelligence artificielle pour faire passer quelque chose.
Vous ne cherchez pas à critiquer les films pour les critiquer, mais toujours avec une critique assez constructive sur des aspects politiques, par exemple dans le monde un avis assez tranché sur les films ou sur l'aspect politique des films. Et je me demandais si vous aviez déjà eu des problèmes par rapport à ça, à cette manière de critiquer.
Non, écoutez, j'ai aucune fatwa sur la tête pour l'instant. J'espère que non, mais non, en plus j'ai l'air de plaisanter, mais je crois que c'est pas un sujet avec lequel on plaisante. Mais non, j'ai pas de problème, parce que faut quand même se calmer, hein. La critique de cinéma, c'est pas c'est pas un leader politique, hein, et c'est pas un leader charismatique, et c'est pas voilà. Donc moi, je prends la parole sur une antenne nationale, France Inter, qui a la avec laquelle le contrat est clair, c'est que je dis ce que je veux, qu'il n'y a pas de censure, ni préalable, ni après, hein, à moi d'assumer ce que je pense, ce que je fais, mais j'ai une liberté totale de dire les choses. Si je vous comprends bien, il y a l'idée que la critique de cinéma, et donc je partage cette idée-là, n'est pas innocente. C'est-à-dire que, comme on disait dans ma jeunesse, on parle toujours de quelque part, c'est-à-dire qu'on l'individu que je suis a une formation universitaire, une pensée, un politique, un regard sur le monde, donc je m'exprime avec ces subjectivités-là. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas regarder un film en oubliant le monde autour. Et ne serait-ce d'ailleurs parce que, on ne l'a pas évoqué, mais ce qui est assez fascinant, intéressant, peut-être un peu difficile dans la critique de cinéma, c'est que contrairement aux autres arts, le cinéma est un genou. 1895, si vous comparez ça à l'hypothétique naissance, on n'a pas de date, de la peinture, de la musique, de la littérature, de l'architecture un peu plus. Mais tous ces arts-là existent depuis des siècles et des siècles. Le cinématographe, il suffit de remonter à 1895 pour trouver ses origines. Et à partir de ce moment-là, comme disait Agnès Varda, le cinéma, c'est un art de la récupération et du glanage. Un film, c'est de la musique, de la littérature, de l'architecture, de la peinture, c'est tout ça. C'est un ensemble de choses piquées ailleurs. Quand on s'appelle Godard, on le fait avec un enseignement de talent, ou Hitchcock, ou Truffaut, etc. Ce sont des formidables récupérateurs, mais tout réalisateur est un récupérateur. Tout ça a existé avant. Tous les éléments qui composent un film, à part le petit plus technologique qui fait qu'un film se déroule sur grand écran, le reste appartient réellement aux autres arts. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'on est, quand on est critique de cinéma, dans l'impossibilité totale de faire l'impasse sur précisément la part de ces autres arts-là dans l'objet qui nous est présenté. On ne peut pas faire comme si il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas dans un film. Et ça oblige à un minimum au moins de prise en considération de ces éléments-là.
Toujours pour parler donc de vos choix en tant que chroniqueur sur France Inter, en voyant toute votre carrière, on peut voir que vous avez dialogué avec nombre d'invités, enfin une variété incroyable d'invités. Cette question se dirige pour savoir comment s'opère le choix de ces derniers. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez des recommandations?
C'est l'actualité. Hein, c'est l'actualité majoritairement. Après, il peut y avoir, dans le cas de podcast, autre chose. C'est-à-dire que ça peut être une décision de s'intéresser à Bertrand Tavernier, à Jean-Paul Belmondo ou à Alain Delon. Là, il n'y a pas une pression d'actualité, même s'il peut y avoir des anniversaires, des centenaires, de ceci, de cela. Mais globalement, ça répond à une envie d'aborder tel sujet, et donc du coup d'interviewer entre 10 et 15 personnes qui connaissent l'œuvre de Tavernier, qui connaissent... Mais le reste du temps, c'est-à-dire, on va dire 90%, c'est l'actualité. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'en France sortent par semaine 10 à 15 nouveaux films. Ce qui, j'attire votre attention là-dessus, est une exception absolument mondiale. Il n'y a aucun autre pays au monde, et surtout pas ceux auxquels on pense et à qui on prête des activités cinématographiques fortes, ce qui est vrai, mais pas du côté du nombre, et certainement pas du côté de la diversité des films présentés, les États-Unis ou l'Inde. La France se distingue absolument par une capacité à présenter chaque semaine, à sortir chaque semaine, je répète, entre 10 et 15 films, dont évidemment des films français, minoritairement, dont des films américains, forte partie, mais aussi des films italiens, roumains, brésiliens, chinois, japonais, coréens, etc., etc., etc. C'est nulle part ailleurs. C'est nulle part ailleurs, de même que le nombre de salles de cinéma en France, c'est nulle part ailleurs. Cette diversité-là, moi j'en prends acte chaque semaine. Donc du coup, c'est pas compliqué de recevoir des gens. Hein. On a que l'embarras du choix, voire le choix de l'embarras. Hein. C'est-à-dire que on est là. Tous les gens ne sont pas là à disposition pour les entretiens, il y en a qui ne veulent pas, etc. Et on ne va pas interviewer tous la même personne, donc on va diversifier. Mais honnêtement, le choix, s'impose. C'est dans le vivier de l'actualité qu'on a à choisir. Voilà. Et Dieu sait si, en France, il est vaste. Je plains un petit peu mes confrères européens, mais pas seulement, américains ou autres, ou indiens. Je dis indiens parce que, vous savez, en Inde, on ne voit que des films indiens, par exemple. C'est un peu limité, quoi. Bon, je plains ces confrères-là de... dans la mesure où il sort beaucoup moins de films chaque semaine, le panel... pour parler concrètement des interviewés possibles, diminue d'autant. Nous, en France, on n'a vraiment pas ce problème-là. Hein.
Vous avez parlé d'une grande diversité de films, de la quantité de films qui sortaient régulièrement. Mais c'est aussi, grâce aux médias que ces films existent et prennent de l'ampleur. Et je me demandais si vous aviez déjà participé à une production, quel que soit le rôle, ou si vous préfériez, vous aviez beaucoup plus d'intérêt pour la critique en elle-même plutôt que la production de films.
Il y a deux questions radicalement distinctes dans votre question. J'aimerais vous répondre par orgueil que les médias ont un rôle dans le succès des films. Hein. C'est ça que je comprends de votre question. Malheureusement, ils n'en ont que très peu. Et les études le prouvent. Régulièrement, le Centre national du cinéma fait des sondages pour demander aux gens pourquoi ils vont au cinéma. Réponses multiples, donc effectivement, l'affichage, la promotion, les bandes annonces, les réseaux sociaux, la presse, écrite, radio, télé, etc. Et malheureusement, la première réponse qui vient, mais très très loin avant toutes les autres, c'est l'envie. Vous savez, quand vous dites, ça peut vous sembler trivial, hein, ce que je vais vous dire, j'ai envie d'un plat de frites, c'est pas parce que vous avez vu une pub pour les frites avant, c'est parce que vous avez envie. Le cinéma, c'est pareil, mais la littérature, c'est pareil. Alors, bien sûr qu'il y a des mécanismes après qui font que il y a des envies qui deviennent communes. Quand tout le monde parle d'un film, il y a comme ça un effet boule de neige. Mais en amont, c'est beaucoup plus compliqué. Et en tous les cas, ce dont je suis certain, c'est que de ce point de vue-là, la critique joue un rôle marginal, aux marges, très, très, très concrètement. C'est-à-dire que nous avons un petit rôle à jouer quand il s'agit de mettre l'accent sur justement des films qui n'ont aucun moyen de communication et sur lesquels on va dire vraiment allez le voir, allez le voir. Ça peut jouer. On le sait, on a des exploitants de cinéma qui nous disent régulièrement, là, on a senti qu'il y avait un effet de ce que vous avez dit, de la critique positive que vous avez dite du film. Là, il y a un effet. Mais vous voyez, ça ne joue que, je peux penser ce que je veux d'Avatar, tout le monde s'en fout. Je peux dire du mal d'Avatar, j'en ai dit, le troisième, ça n'a enlevé au film aucun spectateur. Ça n'en a ajouté aucun non plus. Et il peut y avoir des tas de gens qui vous disent aussi, ah, dès que vous dites qu'un film est mauvais, je vais le voir. Parce que je suis sûr qu'il est bon. Ça ne me dérange pas. Ça me fait toujours rire. Mais, très bien, parfait. Bon. Vous êtes une formidable boussole qui indique le sud. J'ai tout entendu. Moi, ça ne me dérange pas. Bon. Mais on agit vraiment aux marges. Et la deuxième réponse, alors je vais vous faire une réponse très catégorique. J'estime que c'est absolument impossible. C'est-à-dire que si on est critique de cinéma, on n'a rien à faire dans l'industrie du cinéma. Rien. Ou alors, ça s'appelle un conflit d'intérêts. C'est répréhensible. On punit beaucoup de gens sur ces questions-là. Et je ne vois pas pourquoi le critique de cinéma, tout d'un coup, pourrait devenir scénariste, producteur d'un film dont il serait évidemment possiblement critique après.
Bon, une question un peu plus légère pour clôturer cette interview. En évoluant dans ce milieu, vous avez sûrement dû rencontrer nombre d'éminents personnages dont vous avez apprécié le travail, des réalisateurs, acteurs, scénaristes. Est-ce qu'il y en a un en particulier dont vous êtes fier d'avoir pu faire la connaissance ?
Oui, plusieurs. Mais un me vient plus facilement en tête parce que je pense que j'avais noué quelques relations un peu plus profondes, assorties de regrets que j'ai de ne pas avoir pu rencontrer, par exemple, François Truffaut. Bon, là, ça ne s'est pas fait, enfin, pour des raisons de calendrier, il est mort jeune. En revanche, effectivement, j'ai été heureux de rencontrer, de parler, même de travailler un peu, mais pas sur des films, mais de travailler à la radio, avec Bertrand Tavernier. C'est quelqu'un sur lequel j'ai fait un podcast de 9 heures, j'ai écrit un livre. Mais avant, je l'avais rencontré, il était chroniqueur dans une émission que j'animais sur France Inter. Donc je l'ai vu plusieurs années de suite, une fois par semaine, venir faire sa chronique, et puis on a dialogué à ce moment-là. Et c'est quelqu'un dont beaucoup de films m'ont touché, accompagné. Ce sont des films auxquels je peux repenser, qui m'ont, comme beaucoup d'autres, hein, qui m'ont aidé aussi à certains moments. Et le dialogue que j'ai pu avoir, d'abord, d'ailleurs, avec les films, hein, quand je dis une proposition, on dialogue avec une proposition. Puis avec celui qui les avait fait, Tavernier, ça m'a procuré des petits bonheurs, comme on dit, que je trouve finalement très précieux, et j'y repense très régulièrement. On est un certain nombre à avoir côtoyé Bertrand Tavernier et à se dire régulièrement qu'il nous manque, y compris dans ses emportements, y compris dans ses colères, y compris dans sa façon d'être dans la passion, qui n'était pas toujours simple, parfois, mais qui était bigrement enthousiasmante. Et c'est quelqu'un qui manque, en tous les cas, au paysage cinématographique français, c'est sûr. Ouais.
Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour cette interview, Laurent Delmas, pour la Radio du Cinéma.
Merci à vous deux.